Bonjour à tous.
Je suis très heureux de me retrouver parmi vous ce matin. Nous remercions le Seigneur déjà pour la première partie qui nous a permis de passer. Nous avons vu l'importance de la grâce, de très beaux chants. Nous nous disons Seigneur merci pour cette première partie et nous nous demandons de bénir cette seconde partie aussi. Et pour cela, je vais vous inviter à lire un texte avec moi. Un texte qui se trouve dans les évangiles. Avec l'évangile de Matthieu. Le chapitre 11, et on va faire la lecture à partir du verset 1er. Donc Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 1er. Alors l'auteur nous dit ceci, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. Prions. Seigneur, nous voici encore en ta présence. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous sommes venus ici dans un premier temps pour te louer parce que tu es Dieu et tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance, tu mérites la gloire. Mais nous sommes venus aussi dans un deuxième temps, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire. Et Seigneur, nous te demandons de nous encourager par ta parole. Seigneur, ce matin, je veux simplement être un instrument entre tes mains. Tu vois comment je suis petit, faible, et comment j'ai besoin de toi, parce que tu es grand. Et je te demande ce matin que tu puisses venir encore par ton Saint-Esprit agir à travers moi, afin de pouvoir nous encourager, afin que nous puissions rester attachés à toi et fixer les yeux sur toi. Alors bénis chacun de nous encore, bénis ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si je devais donner un titre à mon intervention ce matin, ce serait la consolation en Jésus. Nous vivons dans un monde, et j'ai entendu ça dans une prière ce matin, qui devient de plus en plus difficile. Un monde dans lequel beaucoup de personnes se découragent et baissent les bras. Mais la Bible nous recommande de nous attendre à Dieu. David déjà, ce grand roi, disait déjà en son temps, « Tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. » Oui, nous devons nous attendre à notre Dieu. Dans ce texte de ce matin, ce texte que j'ai pris ce matin, ce texte nous démontre trois vérités selon moi importantes. La première vérité que je voudrais voir avec vous, c'est que nous devons nous attendre à notre Dieu dans nos moments de faiblesse. Dans nos moments de doute. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Pourtant, l'homme qui a prononcé cette phrase, pourtant au début de son ministère, c'est lui qui avait dit, donc en l'occurrence Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce même homme avait dit « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Mais là, le temps a passé. Et Jean se retrouve en prison. Mais ce qui est important à noter, c'est que cet homme se trouve en prison, non pas parce qu'il a commis des exactions, qu'il a commis des fautes, des péchés, mais Jean se trouve en prison pour avoir dit la vérité. Jean a osé dire à un monarque qui vivait dans l'adultère. Et pour cela, il se trouve en prison. Et là, cet homme se retrouve tout seul dans sa cellule, découragé, troublé. De sa prison, Jean entend parler des œuvres de Jésus. Et il s'interroge sur la personne de Jésus. Si réellement Jésus est le Messie, pourquoi il permet à ce que Jean, son précurseur, soit en prison? Pourquoi Jean est en train de croupir en prison? Peut-être que Jean s'est dit que moi je suis abandonné alors que d'autres sont délivrés. Nous voyons à travers cela que j'ai eu un passage à vide. Mais il y a une chose que nous devons noter, même à travers la faiblesse de Jean, il a une bonne réaction. Il va vers Jésus avec ses interrogations. Car Jean sait que c'est là que se trouve la réponse à ces questions. Et je crois que nous qui sommes parvenus au XXIe siècle, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous devons aussi avoir ce même réflexe dans nos difficultés, dans nos souffrances. Peut-être nos moments de doute aussi. Allez à Jésus. Allez à Jésus avec nos questions. Car c'est lui qui pourra nous donner les réponses. Donc nous devons nous attendre à Dieu dans nos moments de faiblesse, quand le doute est là. Mais nous devons aussi aller à notre Dieu, à notre Seigneur, dans les moments d'incompréhension aussi. Jean avait déjà écrit au sujet de Jésus, nous voyons ça dans Matthieu, le chapitre 3, le verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Là, nous voyons que Jean présente Jésus comme celui qui devait apporter un jugement terrible sur les ennemis d'Israël. Il s'attendait, avec tout le peuple d'Israël, d'être délivré de l'occupation romaine. Mais au lieu de cela, Jean voit en Jésus plus un ministère de guérison. Et là, cet homme de Dieu ne comprend plus. Et là, cette phrase, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais Jésus n'était pas venu, pour cela. Et Jésus savait ce qu'il faisait. Le Seigneur n'était pas venu comme un conquérant pour écraser l'Empire romain. Il était venu pour autre chose. Et son chemin passait par Golgotha. Le chemin de Jésus devait passer par la croix. Jésus est venu, et nous l'avons, notre frère Enoch l'a insisté ce matin, c'était la croix. Jésus est venu pour passer par la croix, pour payer le prix, pour nous délivrer de la malédiction du péché, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jésus est venu pour ça, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous pourrons faire encore un parallèle avec ça, avec nous, qui sommes parvenus en ces derniers temps. Que des fois, il y a des complications, des souffrances. Et on se demande pourquoi le Seigneur permet certaines difficultés, certaines souffrances, pourquoi dois-je passer par tel chemin plutôt qu'un autre? Des fois, parfois, on a des interrogations, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi la souffrance? C'est vrai que nous ne sommes pas des masochistes, hein, nous n'aimons pas souffrir. Mais parfois, je permets certaines choses. Et en disant cela, ça me rappelle ce serviteur Job. Job était un homme qui craignait Dieu. Et puis je vais passer par des moments terribles. Cet homme de Dieu a beaucoup souffert. Mais ce qui est important de noter, parce que Job a perdu tout ce qu'il avait, c'est un homme qui avait de grands biens, il a tout perdu, il a même perdu sa famille, ses enfants, une calamité, quelque chose d'horrible. Et Job a perdu tout ça en un jour, ça a été très long vite. Mais ce qui est important à travers l'histoire de Job, c'est que il y avait tous ces faits physiques, mais il y avait aussi des faits dans le monde spirituel. Et Job ne savait pas ce qui se passait dans le monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, Dieu avait misé sur cet homme-là. Il y avait l'accusateur qui était là pour dire que cet homme est fidèle, cet homme est intègre, parce que tu l'as béni. Mais prends tout ce que tu lui as donné et tu verras comment il te maudira en face. Et Dieu a permis. Cet homme a été touché à travers tous ses biens. Et lorsque le diable a vu qu'il n'a pas maudit Dieu, il lui a dit, bien, touche à sa santé. Dieu a donné au diable le pouvoir de toucher à la santé de Job. Mais malgré ça, cet homme est resté intègre. Il n'a pas maudit son Dieu. Et à travers ce qui arrive à Job, nous voyons que, à aucun moment, Dieu ne dit à Job que, voilà, je vais faire tes difficultés tomber sur toi, afin de montrer au diable que tu es intègre. Ce qui s'est passé dans le monde spirituel, Job ne l'a jamais su. Et je crois que ça aussi, ça doit nous interpeller. Parfois, Dieu permet des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 17 à 18, nous disons ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles éternelles. L'apôtre Paul parle de légère affliction, mais nous savons tous que cet homme a beaucoup souffert pour le nom de Jésus. Et lorsqu'il comparait les difficultés à la gloire à venir, il disait que tout ça c'était des peccadilles, des légères afflictions. Et je crois aussi que Dieu veut aussi que nous puissions projeter nos regards dans ce qui nous attend. La Bible parle du ciel, et c'est un endroit merveilleux, un endroit que nous ne pouvons même pas imaginer. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas percevoir. Mais une chose est sûre, c'est que ce sera beau. Et c'est là la destinée du chrétien. Ceux qui ont accepté Jésus pour leur sauveur personnel verront ce grand Dieu. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute espérance, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Et ce sera là. La félicité, ça sera merveilleux. Donc, plus Dieu nous permet de toujours regarder vers ce grand Dieu. C'est sûr qu'il y aura des difficultés, mais un jour, nous serons avec le Seigneur. Et qu'est-ce que ça sera quelques jours de souffrance comparé à l'éternité de bonheur? Nous regardons aux choses invisibles. Les choses visibles passeront. Mais les choses spirituelles resteront. Et nous avons l'exemple du Seigneur. Lorsque nous regardons les évangiles, nous voyons que les apôtres même n'avaient pas compris le salut. Et pour tout le monde voyant en Jésus ce grand leader, ce guerrier qui allait venir et puis qui allait ravager l'Empire romain. Mais Jésus est venu accomplir notre victoire pour nous donner la vie. De même aussi, le Seigneur nous permet de voir aussi qu'il nous utilise ce qui permet pour l'avancement de son règne. Et un jour, nous serons avec lui. Il y aura toute l'âme de nos yeux, il y aura toutes les larmes, et ça sera la joie, ça sera le bonheur, la félicité. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, Nous devons nous attendre à Dieu, car c'est lui qui possède la solution. C'est lui qui nous encourage. Jésus répond à Jean en lui rappelant les miracles que devait accomplir le Messie. Il y a beaucoup de textes qui disent, parmi les prophètes, qui disent ce que Jésus devait accomplir. J'ai choisi Isaïe, Isaïe, page 42. Le verset 6 à 7 nous dit ceci. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Il y a aussi un autre texte, c'est dans Isaïe aussi, Isaïe 35. Je vais simplement faire la lecture. Isaïe 35 nous dit, le verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. À travers tous ces textes, nous voyons que ce que le Messie devait faire, et en disant aux disciples de Jean d'aller rapporter cela à Jean, le Seigneur voulait encourager son serviteur. En quelque sorte, tu vois, les prophéties qui ont été annoncées, c'est ce que je réalise en fin de compte. Il était réellement le Messie, faisant ce que la prophétie disait. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. » La prophétie le disait, et Jésus en quelque sorte disait à Jean, « Mais tu vois, ce qui se passe, c'est ce que la prophétie disait. Donc, je suis le Messie. Je suis le Messie que vous attendez. » Et Jésus va encore plus loin parce qu'il dit, « Les morts ressuscitent. » Alors que la prophétie ne parlait pas de les morts ressuscitent, mais à travers tout ça, Jésus encourage son serviteur. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance dans Ésaïe 61. Tout ça, la prophétie l'avait dit. Donc Jésus, à travers ce qu'il a dit aux disciples de Jean, c'était pour les encourager, pour leur dire que, allez dire à Jean que ce qui était prévu, c'est ce que je fais. Je suis le Messie. Et je suis venu pour délivrer. Oui, Jésus, c'est lui notre soutien, notre consolation. Puissons-nous garder toujours cette confiance en notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Et c'est lui qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous permet de tenir ferme dans les moments difficiles. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, nous devons nous attendre à Dieu, car ses promesses sont certaines. Tout ce que notre Dieu nous dit dans sa parole s'accomplira. Tout ce que Dieu dit se réalisera. La Bible est le seul livre qui dit ce qui va se passer demain. Aucun autre livre sous cette terre ne nous donne autant de prophéties qu'elle. La Bible nous dit ce qui va se passer demain. Quelqu'un a dit que la Bible est comme une enclume qui brise tous les marteaux. Et pendant des siècles, les hommes ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'éliminer, mener la Bible en dérision, toutes sortes de choses. Mais elle est comme cette enclume qui brise des marteaux. Combien de marteaux ont tapé sous la Bible, mais ils ont tous été brisés. Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et que cette Bible a été faite. Et Dieu est derrière tout ce qu'il dit. La Bible est la parole de Dieu. Déjà dans la Genèse, lorsque l'homme est tombé dans le péché, le jardin d'Éden, Dieu avait dit dans Genèse 3, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis là, Dieu parlait déjà de la venue du Seigneur pour pouvoir délivrer l'homme du péché. Après, bien entendu, la Galate nous dit que lorsqu'elle était accomplie, Jésus est venu. Mais la Bible nous dit ce qui va se passer demain. David, qui a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ, David, dans plusieurs psaumes, a vu la mort du Seigneur Jésus. Le psaume, par exemple, 21, verset 17, nous dit que « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » À travers ce que David dit là, il voit la mort du Seigneur Jésus, 1000 ans avant. Cet homme voyait déjà la venue de Jésus, la mort de Jésus. Et un fait qui m'a interpellé, c'est que du temps de David, la crucifixion n'existe pas. La crucifixion est venue des siècles et des siècles après. Et cet homme dit que, autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Le châtiment n'existait même pas parce que du temps de David, c'était la lapidation qui existait. Et cet homme a vu la crucifixion du Seigneur. La Bible dit ce qui va se passer demain. Et nous avons aussi l'exemple d'Israël. Combien de versets dans la Bible parle d'Israël, le peuple de Dieu? Et déjà dans les évangiles, plusieurs fois nous en avons parlé dans cette salle. Le peuple d'Israël a péché, ils sont l'an 70, parce qu'Israël s'en organisait de son temple, c'était beau, c'était merveilleux. Le temple a été brûlé par les Romains. Et ce qui est important, c'est à partir de 135, après Jésus-Christ, Israël a été rayé de la carte, Israël n'était plus un peuple. Le peuple d'Israël n'existait plus. Environ 135 ans après Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est que la Bible a toujours dit que ce peuple reviendra dans sa patrie. Et je vous invite à lire un texte avec moi qui parle de cela. Jérémie, le verset 23. Jérémie 23, le verset, à partir du verset 7 et 8. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Et ils habiteront dans leur pays. La postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Ce qui est impressionnant, c'est que Israël, donc depuis 135 ans après Jésus-Christ, comme j'ai dit, ce peuple-là n'existait plus. En tant que nation juive, elle n'existait plus. Israël n'existait plus sur la scène mondiale. Et en 1945, ce peuple réapparaît. Pourtant, Dieu l'avait dit. La Bible dit ce qui va se passer demain. Et il y a un autre verset qui m'a interpellé, c'est pas la peine de le prendre, je vais simplement le lire. C'est dans Isaïe 66, je vais simplement lire, c'est pas la peine de. Isaïe 66. Je vais y arriver. 66. Ça, je ne trouvais pas, j'étais dans Jérémie. Isaïe 66. Le verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ce verset montre que, en 1948, Israël revient sur le devant de la scène mondiale. En un jour. Et lorsqu'on regarde un peu l'histoire de ce peuple, on voit que ce peuple a apparu d'un coup. En 1948, les gens vont entendre à la télé que Israël redevient au devant de la scène mondiale. A-t-on déjà vu, en un jour, un peuple revient? Ce qui est important, c'est que ce peuple-là, comme près de 20 siècles, il reste à trop. Et là, le peuple revient, ils ont leur langue. Israël, c'est l'un des pays les plus puissants au monde, avec un arsenal militaire important. Ils ont la bombe atomique, ils ont tout très développé, l'espionnage et tout. Donc c'est un pays à la pointe du progrès. Et ce qui est important, c'est que lorsque Israël, on ne sait pas envie de le revenir, tous les pays aux alentours ont essayé de lutter pour pouvoir reprendre les territoires. Et il est à noter qu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit avec les pays aux alentours, Israël a gagné du territoire. Le Seigneur leur a donné ce pays. Et ce qui est important, comme je l'ai dit, la Bible dit ce qui va se produire demain. Je voudrais lire un dernier texte avec vous. Ce n'est pas la peine de prendre, je vais y aller directement. Alors, c'est dans. La Bible nous dit aussi ce qui va se passer demain pour notre monde. Je repasse tellement vite. Luc 21, le verset. Luc 21, à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire, au bout de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Lorsque nous disons ça, ça fait chaud, ça fait froid dans le dos. Ça fait peur. Ces versets nous montrent ce qui va se passer, la situation de notre monde avant le retour de notre Seigneur Jésus. Mais avant le retour de notre Seigneur Jésus en gloire, il y aura de la détresse, de la confusion, de l'angoisse. Cette période, c'est la période de la grande tribulation. Mais nous croyons, parce que Thessaloniciens nous dit que l'Église sera enlevée avant cela. Mais ce verset nous montre ce qui attend notre monde. Je dis ça par rapport à ce que nous avons connu à travers ces dernières semaines, cette situation inédite, ces difficultés que nous avons eues. Nous n'avons même pas pu nous réunir. Et je crois que ça doit nous interpeller, cette situation. Et je crois que Dieu permet ces choses pour nous interpeller. Nous montrer que voilà ce qui attend notre monde. nous montrer que les temps, et j'entends aussi dans beaucoup de prières, les temps sont difficiles et les choses deviennent encore plus compliquées. La Bible nous dit clairement que ce qui arrivait du temps de Noé arrivera pareillement à notre temps. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se souciaient pas de Dieu. Et puis le déluge est venu. Et ils les ont emportés tous. Souvent, vous savez, j'ai réfléchi beaucoup et je me dis un peu sur Noé. Je me suis dit, mais du temps de Noé, il y avait des gens qui nageaient très bien. Il devait y avoir de bons nageurs. Hein. Il y avait des maîtres nageurs. Des gens qui devaient faire des distances à une vitesse impressionnante aussi. Ben, ça ne va pas faire d'être sauvé. Hein. Je me suis dit que du temps de Noé, il y avait aussi d'autres bateaux. Noé n'était pas le seul à avoir l'arche. Dieu lui avait demandé de le faire. Mais je me dis que aux alentours, il y avait aussi des bateaux. Ils auraient pu voir que lorsque l'eau commençait à monter, au même point le bateau, et puis ils se sauvaient aussi, mettre les denrées à l'intérieur de ce bateau pour pouvoir résister aussi. Eh ben non, ça n'a pas marché non plus. Hein. Je me suis dit aussi que ils ont dû prendre des cordes et puis lancer ça sur l'arche et au moins s'agripper à l'arche. On pouvait monter sous le ponton de l'arche, trouver un endroit pour se mettre en sécurité. Ben non, ça n'a pas marché non plus. La Bible nous dit clairement que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. La sécurité était dans l'arche. Et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche n'ont pas été sauvés. La Bible nous dit que, pareil, le temps dans lequel nous vivons est réservé pour le feu. Et là aussi, c'est pareil. Il y a une arche. Et cette arche s'appelle Jésus-Christ. Nous entendons souvent, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Non, mais tous les chemins ne mènent pas à Rome. De la même façon que tous les exemples que j'ai pris n'ont pas permis aux gens de se sauver, du temps de Noé, eh bien pareil, la seule solution se trouve en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont sauvés, n'ont rien à craindre, mais ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, eh bien, ils sont en danger. Et Noé a dit encore, la porte de la grâce est encore ouverte, et Dieu appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous toutes êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, pour nous montrer que la sécurité, c'est Jésus-Christ. Les difficultés viendront, nous l'avons eu, hein, ce qui attend notre monde. Mais nous croyons que ceux qui ont accepté Jésus pour leur sauveur personnel, j'essaie de prendre un soin d'eux. Même si les difficultés sont là, même si nous ne savons pas ce que demain va enfanter, hein, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose de plus virulent encore que le Covid? Mais tout ça nous montre que nous avons besoin de Jésus. Et de la sécurité d'accès, on se trouve en Jésus. Et à partir du moment que nous sommes dans les mains du Seigneur Jésus, il prendra soin de nous. Que ce soit ce qui arrivera, mais nous serons entre ses mains et nous serons en sécurité. Donc, puisse le Seigneur nous permettre de voir les temps dans lesquels nous vivons, nous permettre de parfaire notre sanctification, nous permettre d'avancer avec le Seigneur Jésus. Et je dirais en conclusion que Dieu nous donne toujours à compter sur lui et à nous attendre à lui. Il n'y a que lui qui ne nous décevra jamais. Et sachant que quelle que soit la tournure que prendront les choses sur cette terre, dans notre monde, le Seigneur Jésus prendra soin de nous. Car il est assis sous son trône et il domine sur toutes choses. Le Seigneur Jésus est assis sous son trône et il domine sur toutes choses. Donc si nous sommes dans sa main, nous sommes en sécurité. Que ce soit ce qui doit arriver, mais dans la main de Jésus, nous sommes en sécurité. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Comme nous l'avons chanter encore ce matin, merci pour la croix. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es ce grand Dieu d'amour. Et comme j'ai entendu dans beaucoup de prières ce matin, nous ne cesserons de te dire assez merci, parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Merci Seigneur, parce que tu es le consolateur. C'est toi qui nous consoles dans nos souffrances, dans nos difficultés. Merci parce que tu es là, et jamais tu nous abandonneras. Apprends-nous toujours à compter sur toi, et à fixer les regards sur toi, car les jours sont mauvais. Mais merci parce que tu es là et tu nous aimes. Que tu bénisses chacun d'entre nous. Tu bénisses mes frères et sœurs. Tu nous permets d'avancer avec toi. De rester sous toi, attaché à toi. Et continue le combat avec toi. Car nous sommes plus que vainqueurs en toi. Bénis chacun de nous encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.